Alors, la pièce de théâtre que nous allons vous présenter aujourd'hui, ou plutôt la suite et la fin de la représentation théâtrale que l'association Handicap Évasion 04 avait faite du roman de Jean Giono, Que ma joie demeure, nous allons vous présenter aujourd'hui les 6 dernières scènes. Je rappelle que nous avions déjà présenté en décembre 2023, puis en janvier 2024, les 12 premières scènes dont je vais faire un court résumé avant de commencer cette présentation. Alors, l'histoire se déroule sur un plateau, quelque part, en Haute-Provence, le plateau Grémone. Il y a cinq fermes et un château. Sur ce plateau, la monotonie des travaux agricoles, toujours recommencée, toujours les mêmes, la platitude du décor et sa monochromie suscite chez les habitants de ce petit monde le désintérêt et l'ennui. On y relate deux suicides. Celui du châtelain, c'était un savant. Il avait une chambre pleine de livres. Madame Hélène, sa femme, la douceur même. Il avait une belle petite fille, Aurore. Tout, quoi. Et puis un jour, il s'est tiré un coup de fusil. Puis, le suicide du père Sylve, qui s'est pendu. Mais arrive un étranger, Bobby, un poète, qui leur fait découvrir la beauté du monde, la passion pour l'inutile, le partage des travaux et de l'amitié, la convivialité, ce que Giono appelait les vraies richesses. Jourdain et Marthe sont tout heureux d'accueillir ce sauveur chez eux. Mais Bobby s'absente pour aller leur chercher de plus grosses graines pour leur ensemencer le cœur. Il revient avec un cerf dressé qui fait la joie de tout le monde et participe même à un banquet qui regroupe tous les habitants du plateau. C'est la fête. Tout le monde est joyeux, mais en pressant des conflits. Aurore, la jeune châtelaine, est fascinée par le cerf et surtout par Bobby qui lui a offert des fleurs et dont les propos poétiques la bouleversent. Marthe, une jeune femme dans la fleur de l'âge, est secrètement amoureuse de Bobby qu'elle essaye de séduire pendant le banquet. Donc le banquet se termine, et dans la scène suivante, que nous allons vous présenter maintenant, on trouve sur scène Joséphine, qui rend visite à Marthe dans la ferme de Jourdain.
Bonjour Marthe, vous êtes seule ?
Non, les hommes dorment. Je suis lasse.
Vous êtes heureuse, Marthe. Je voudrais être lasse, moi aussi. Me coucher n'importe où, dormir et ne penser à rien.
Qu'est-ce que tu as ?
Je n'ai pas de tranquillité.
Nous allons avoir le bonheur, Joséphine.
Mais quel bonheur, Marthe ?
Oh, comment ? Quel bonheur, bonté de Dieu !
Ne parlez pas si fort, ils dorment.
Il a fallu que tu sois rudement bien avant, pour que tu ne saches pas de quoi on veut parler maintenant, quand on dit bonheur.
Vous savez bien, Marthe, que je n'ai jamais été heureuse. Vous avez été toujours très douce avec moi. Aujourd'hui, j'avais envie que vous me parliez. C'est pourquoi je suis venue.
J'ai été très inquiète de toi, ma petite Joséphine. Sauf quand j'ai vu que tu te mariais. Et puis, tu as eu des enfants. Et puis, tu es devenue paisible.
Qu'est-ce que vous en savez ?
Ça se voyait.
J'ai eu des moments de plaisir, sûrement, comme tout le monde.
Alors, il ne faut pas se plaindre.
Je me plains de l'inquiétude.
Tu veux parler de cette inquiétude, de toujours vouloir ?
Oui, l'inquiétude, toujours attendre, toujours vouloir, avoir peur de ce qu'on a, vouloir ce qu'on n'a pas. L'avoir, et puis tout de suite avoir peur que ça parte, et puis savoir que ça va partir d'entre nos mains, et puis ça part d'entre nos mains. J'allais dire, comme un oiseau qui s'échappe. Non. Comme quand on serre une poignée de sable. Voilà. Marthe, est-ce que vous avez confiance ?
En quoi ?
Dans ce qu'ils vont faire.
Oui.
Vous croyez tout ce qu'ils ont dit ?
Ça, c'est déjà tout vérifié.
Pas tout.
Qu'est-ce que tu lui reproches ?
Je n'ai rien à lui reprocher. Je n'ai rien à reprocher à personne. Je ne l'ai même plus vu depuis le dimanche où on a mangé ici. Je voudrais savoir ce qu'il veut faire.
Je suis vieille.
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
J'ai compris tout de suite ce qu'il voulait faire. Mais c'est pour dire que j'ai perdu ce que tu as, ta jeunesse. Et pour dire aussi qu'il n'est pas vrai que tout est fini, quand il reste l'envie.
Oui, l'envie.
Dans la scène suivante, Bobby est seul sur la scène, il laboure et s'arrête au milieu d'un sillon pour se livrer à des réflexions à haute voix. Il n'a pas vu Aurore qui surprend son monologue.
Je savais ce que voulait Joséphine, et elle a eu ce qu'elle voulait. Et moi aussi avec elle. Alors, c'est ça la joie ? Mais je ne peux pas oublier les mots d'Aurore. On prend vite l'habitude de se faire sécher la tête dans le tablier chaud des filles, et après, ça vous manque. Surtout quand c'est Aurore. Comment dire tout ça à Aurore ? Comment lui dire toute mon envie ? La joie. Il n'y a pas de joie. Pourtant, Orion, fleur de carotte, les oiseaux, les narcisses, le cerf. Mais la joie ne dure pas. Dès qu'on la touche, on la perd.
Je vous déteste. Vous n'êtes pas digne d'être aimé. Vous ne comprenez jamais ce que c'est que l'amour et comme on est sans défense. La rivière a plus de cœur que vous. Si j'étais certaine de pouvoir vous rendre malheureux, je vous maudirais.
Aurore, pourquoi m'as-tu parlé avec cette voix brutale et mauvaise ? Pourquoi t'es-tu sauvée sans me laisser le temps de répondre ? Aurore, pourquoi tu vis si vite ? Aurore, pourquoi tu fuis ? Peut-être n'est-ce pas une fuite, Aurore ? Sais-tu, Aurore, qu'on ne peut jamais dépasser l'horizon ? Aurore, c'est vrai que je n'avais jamais aimé. Aurore, jamais je ne pourrai oublier tes mots. Aurore, demain, j'irai te voir au château.
Dans la scène suivante, Bobby, comme prévu, se rend au château pour voir Aurore.
On peut entrer ?
Oui.
Vous êtes le fermier de Madame Hélène et d'Aurore, le fermier du château ?
Oui.
Mais tu lis. Je voudrais voir Mademoiselle Aurore.
Elle n'est pas là. Et toi, tu es celui de la Jourdan, celui qui donne le bonheur ? Je savais que nous nous rencontrerions un jour.
Oui. J'essaye de leur donner de la joie. Quand je suis arrivé sur le plateau, ils étaient à bout de force.
J'essaie aussi. Je suis un acheteur d'espérance, comme tout le monde.
Alors explique-toi.
Non. Toi, tu as commencé l'expérience. Moi, pas encore. À toi de dire.
J'ai vu beaucoup d'hommes malheureux.
C'est une chose facile dans ce monde.
Je me comparais, je me disais, toi, tu es heureux. Je me disais, oui. Je me demandais, pourquoi ?
Si tu te disais heureux, tu ne l'étais déjà plus. Ça ne se sait pas.
Mais je ne l'étais plus, justement. Le malheur des autres m'empêchait.
Dommage que des hommes comme toi se trompent.
Pourtant, des fois, le soir au bord des routes, regardant venir la nuit, regardant s'en aller le petit vent dans la poussière sentant l'herbe, écoutant le bruit de forêt, j'avais parfois presque le temps de voir mon bonheur. C'était comme le saut d'une puce. Elle est là, elle est partie. Mais j'étais libre.
La liberté n'existe pas.
Libre d'aller où je voulais.
Pas libre de ne pas sentir l'herbe, ni de ne pas entendre le bruit de la forêt. Tu n'étais plus toi, mais toi plus la forêt, plus l'herbe, plus tout le reste. Donc pas libre. Là n'est pas la question. Vas-y, mais ne parle pas de liberté.
Le monde est une nourriture. Écoute ce qui m'est arrivé une fois. Un jour, dans la montagne, je suis entré chez un de mes amis. Il était vieux, paralysé dans son lit, nourri de lait, incapable de bouger, soigné par sa fille seule. Sa fille donc était là, À un moment, il nous regarda. Il essaya. Il fit bouger son œil. Un signe. Alors je la vis. Elle allait chercher la pipe. Elle la bourra de tabac. Elle l'alluma, la mettant à sa bouche à elle et tirant. Une fois bien allumée, elle la lui donna. Il se mit à pomper tout doucement. Il ferma les yeux. Sa fille me dit « Viens, sortons. Ça, il l'aime. » Une seule joie et le monde vaut encore la peine. Les joies du monde sont notre seule nourriture.
Ce qui est grave, c'est que ta joie n'est pas solide.
Elle peut être solide. Elle est basée sur la simplicité, sur la pureté et la liberté originelle, sur le partage. Redevenons.
Devenir, c'est un avant, jamais un arrière. Et cesse de profiter de ton avantage de poète. Ne me couvre plus d'images. Moi, je vois les choses sur le plan social. Je dis qu'il nous faudra des poètes, mais je dis aussi que, de temps en temps, nous serons obligés de leur foutre des coups de pied au cul.
Je suis arrivé ici en pleine nuit. J'ai vu un type qui labourait. Je me suis pensé, alors ça ne va pas mieux. Le type m'a donné du tabac, on a fumé, je me suis mis à parler. Oh, je disais n'importe quoi, j'avais seulement envie que ça le soulage. À la fin, il m'a demandé, tu n'as jamais soigné de lépreux ?
Nous voulons justement qu'il n'y ait plus de ces lépreux.
Je t'assure que ça te fait quelque chose quand un homme se confie à toi pour que tu le soignes. Ils m'ont reçu comme le bon Dieu.
Et tu vas faire rétrécir leurs champs ?
Oui. Ils ne travailleront plus que doucement, pour leur plaisir.
Mais il faut penser à la grande masse des travailleurs, imagine-toi. C'est à devenir fou quand on pense que nous sommes des millions et des millions. Et sur la terre, des plaques de désert, de grands déserts d'hommes qui n'ont jamais mangé des pêches, des poires, des melons, des pastèques, des prunes, des pommes. On cherchera la nouvelle terre. Tu la vois, la nouvelle terre, toute couverte de vergers ? Là où était le sable, verger. Là où était la neige, verger. L'arbre acclimaté partout, dirigé, fait à notre désir, verger, verger sur toute la terre, verger pour tous. Tu veux vivre sur la vieille terre ? Je veux vivre sur la terre nouvelle. Je te l'ai dit, devenir, c'est un avant, jamais un arrière. Content de t'avoir connu.
Dans la scène suivante, Bobby entre en scène, il pose sa veste sur une chaise et ressort. Aurore, qui le guettait, s'approche de la veste.
Aurore entra. Il n'y avait personne, sauf cette veste de velours pendue au clou et qui gardait la forme des épaules et le mouvement des bras. Elle prit cette veste. Elle l'essaya sur elle, passant ses bras de femme dans les mouvements des bras de l'homme, mettant sa poitrine de femme dans la poitrine de cet homme de fumée.
Dans la scène suivante, sur scène, Bobby, Joséphine, Jourdan, Marthe, Madame Hélène, qui est la maman d'Aurore.
Il faut que je vous parle. Pourquoi avoir choisi chacun notre petit champ de blé ? Si nous avions un grand champ de blé pour tous, nous sèmerions ensemble et nous faucherions ensemble. Le blé serait à nous tous. Et le pain que nous ferions cuire serait notre pain à tous. Et l'important serait de faire du beau blé et du bon pain.
Oui,
oui,
ah, oui, oui.
Et l'important serait de faire ce qui tient au cœur et non ce qui tient au ventre.
Qu'est-ce que vous dites ?
Nous parlons de blé.
J'ai entendu que vous disiez cœur.
Oui, mais il faudrait que la joie soit paisible, même quand le plaisir qu'on a vous dépasse le corps. Car la joie, dès qu'on la touche égoïstement, on la perd. Pour la garder, pour que la joie demeure, il faut la partager. Partager le monde, partager les joies du monde, comme le cerf, comme les biches, comme les narcisses.
Joséphine, tire Bobby à part.
Tu es tout, et toi seul me fais envie.
Autour de nous, il y a malgré tout le monde entier et la joie. Mais si la joie est batailleuse et passionnée, alors elle n'est rien, elle ne demeure pas.
Le blé était mûr. Sur le plateau, la moisson commença avec une petite fièvre rapide. Soudain, ils s'aperçurent tous qu'ils n'avaient pas besoin de se presser. « Il faut avoir, se disait-il, du temps à perdre pour faucher comme ça. C'était trop beau. Nous travaillons dans notre champ, dit Bobby. » Ils avaient décidé de camper près des champs. Les nuits étaient des miracles de fraîcheur et de parfum. Depuis 2 jours qu'on fauchait, qu'on mangeait, qu'on campait au champ tous ensemble, on avait oublié les maisons. Le ciel était si solide tout autour.
Dans cette nouvelle scène, tous les personnages sont sur place, sauf Aurore.
C'est notre blé. Il n'est ni à l'un ni à l'autre, comme le cerf. Il est à nous tous.
Et mademoiselle Aurore, où est-elle?
Elle était là.
Quand?
Tout à l'heure.
Il y a longtemps?
Non, je ne sais pas. Pourquoi?
Pour rien.
Aurore!
Elle était là.
Oui, mais où est-elle?
Je l'ai vue s'en aller du côté de l'étable.
Aurore!
Viens, viens, Bobby.
Où allez-vous?
Restez là, madame Hélène. Ce n'est rien. Elle a l'habitude de partir. Elle est peut-être allée à la forêt. Non, non, restez là, madame Hélène.
Non, laissez-moi, je veux ma fille, je n'ai que ma fille.
Mais non, on va la chercher, ne vous inquiétez pas. Gardez-la, vous tous, gardez-la.
Ma fille!
Bobby, Bobby, c'est là-bas, j'ai vu le corps.
Aurore!
Ma fille, mon petit enfant, je veux la voir, Jourdan.
Non. Non, madame Hélène, vous ne pouvez pas la voir.
Aurore était tombée à la renverse. Elle s'était tirée un coup de fusil. Elle éclairait l'herbe et le monde comme un terrible soleil.
Dans la scène suivante, Bobby est seul. Il monologue. Pendant qu'il marche.
L'aube pointa. Les terres du sud étaient sous 50 km d'orage. De ce côté du plateau, il n'y avait pas d'arbres. Toute la végétation consistait en une sorte d'alpha, scintillant comme du quartz, étendu à perte de vue. Ce matin, la lumière ne venait que des herbes. Le ciel n'était pas éclairé.
Ce morceau de la contrée n'avait pas de nom pour les hommes du plateau. Ils n'en parlaient jamais. Quand c'était tout à fait obligé, ils disaient « là-bas » et ils désignaient les vagues miroitantes de la terre perdue.
Pour aller jusqu'au rebord nord du plateau, à l'extrême bord des pâtures, il fallait à peine un jour, et en marchant doucement au pas d'homme. Mais du côté du sud, le plateau s'en allait pendant plus de 7 jours de marche.
Bobby dépassa la maison de Sylve. Elle était morte et immobile, blanche comme une maison de neige. Il longea les champs abandonnés couverts de ronces robustes et entra dans le véritable sud.
C'est impossible. Il faut partir. Tout a raté. Alors, vagabond, te revoilà sur le chemin? Alors, marche. Pourtant, je suis arrivé, j'ai dit « Orion fleur de carotte ». C'est une chose qui était dans ma tête. Je l'ai dit. Ils l'ont entendu, et c'est passé dans leur tête. Donc? Donc quoi? Donc, je suis quelque chose. Merde, tiens, oui, tu es quelque chose en douille, comme tout le reste, comme tout ce qui est sur la terre. Pas plus. Plus? Pas plus. Ferme ta gueule à la fin. Tu es encore là à faire le beau avec tes orions fleurs de carotte. Si tu es responsable, comme tu dis, alors tu es le dernier des salauds. Oui. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas, marcher. Marcher où? Là-dessus. Ne fais pas l'andouille. Où vas-tu aller? Il n'y a pas de joie. Tais-toi! Il n'y a pas de joie. Si, je la vois! C'est toi que tu vois. Cours, cours, cours! Ne cours plus!
La foudre lui planta un arbre d'or dans les épaules.
Pour cette dernière scène, trois personnages, Jourdan, Marthe et Joséphine. L'orage a dû tuer des bêtes.
Surtout dans le sud.
Et alors, Bobby est parti?
Oui. On l'a vu arriver dans la nuit. Il est parti dans la nuit.
Il reviendra.
Une fois, il est parti. Et puis, il est revenu. Nous étions allés l'attendre, Jourdan et moi. Et il est revenu avec le cerf.
Il reviendra, j'en suis sûre. J'en suis sûre. J'en suis sûre.
La 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 la.
Ainsi s'achève le roman sur cette certitude de Joséphine. Elle dit: il reviendra, j'en suis sûr. J'en suis sûr, j'en suis sûr. Mais, dans notre adaptation théâtrale, nous avons ajouté un épilogue, un texte de Giono, dans Les Vraies Richesses, que nous avons résumé pour terminer sur une note d'espoir, avec ce possible retour du poète sous une autre forme, celle d'un éternel recommencement. Bobby, mort, son cadavre est sur le plateau, le calme est revenu. Bobby est à ce moment-là en pleine science. Il s'élargit aux dimensions de l'univers. Dans la terre, le corps de Bobby nourrit les racines d'une sarriette et d'un serpolet. Le morceau de racine reprend vie. Au printemps, il percera la terre et fera vivre un commencement de tige dure et verte. Bobby est couvert d'oiseaux, comme le tas de blé chez Jourdan l'hiver dernier. Pour les renards, la nuit est toute écrite en traces, en odeurs, en passages, en pistes, en orientations où Bobby ne voyait qu'une solitude. Les oiseaux volent dans la nuit. Ils sont joyeux.